Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Barthas. Et puis de cette nouvelle chronique d'Antidote qui est enregistrée dans des conditions un peu particulières. Nous sommes le 17 mars 2023 et on est en plein mouvement contre la réforme des retraites et au lendemain du 49-3. Bref, donc cette chronique est enregistrée entre un blocage et une AG. Donc vous nous excuserez si il y a des petits couacs, mais en fait je ne vais pas du tout vous parler de la retraite aujourd'hui, ni même de la vieillesse. Non, moi aujourd'hui je vais vous parler du féminisme et des femmes. Voilà. En fait, je vais vous parler à partir d'un bouquin de Aude Vidal. Aude Vidal, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une chronique autour de son bouquin, autour du revenu universel. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Bref, vous retrouverez ça sur le site de Radio Barthas. Mais Aude Vidal, elle a fait plusieurs livres et elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La conjuration des égaux », sous-titré « Féminisme et individualisme ». Voilà, et ben, c'est de ça que je vais vous parler tout de suite. En fait, dans ce bouquin, Aude Vidal se demande si les orientations actuelles du mouvement féministe ne sont pas en train de détruire certains acquis du féminisme. Aïe, ça va faire mal. En fait, c'est donc bien à une défense du féminisme que l'auteur s'emploie, quand même, faut quand même le dire. En fait, elle s'inquiète du fait que l'individualisme et le libéralisme ont infusé partout dans la société, y compris dans les milieux les plus attachés à la justice sociale et à l'émancipation. Alors que l'individualisme nous fait perdre de vue les interdépendances et la solidarité, et le libéralisme, il entraîne le développement de libertés non partagées par tous. C'est ma liberté, pas la liberté collective. Alors, pour Aude Vidal, des notions aussi séduisantes, par exemple, que l'autodéfinition du genre ou ce qu'on appelle le féminisme du choix, relèvent de cette vision délétère du monde social. Leur succès, c'est le fruit d'une convergence entre des politiques libérales et des milieux radicaux. Et c'est ce qu'elle appelle, elle pense que ça constitue une conjuration des égaux. C'est-à-dire un dévoiement des idéaux d'égalité et de justice et un développement d'un égoïsme qui accède ainsi à la dignité d'idéologie politique. Eh bien, c'est tout ça qu'on va détailler ensemble. Alors, pour commencer, Aude Vidal, elle rappelle que nous avons toujours besoin du féminisme. Que les inégalités, les discriminations, les oppressions, les violences subies par les femmes sont toujours d'actualité, dans les foyers comme dans le monde du travail, dans les milieux politiques comme dans les milieux universitaires, etc. Et elle rappelle aussi que la lutte féministe est avant tout une lutte pour l'émancipation et que cette émancipation nécessite des luttes collectives. Je vous renvoie à la chronique du mois dernier, qui s'appelait d'ailleurs « Émancipation », où on avait bien parlé de ce lien entre émancipation et collectif. Et puis après avoir fait ce petit rappel, elle fait un petit tour d'horizon de ce que les luttes féministes ont apporté au monde, en pointant les dérives. Alors, le premier concept, on va dire, dont elle parle, c'est ce qu'on appelle le concept de bienveillance. Alors, c'est venu de la culture féministe qui s'est faite en réaction à un virilisme de gauche. C'est vrai que moi, j'ai bien connu ça dans les années 70 à 90. Il y avait une forme de virilisme à gauche et c'est vrai que les femmes avaient très peu leur place et que c'était difficile, puisque vraiment, alors il n'y avait vraiment aucune bienveillance, ça c'est sûr. Et du coup, les femmes ont amené ce côté-là, avec l'idée que la bienveillance serait une façon d'être ensemble sans se faire du mal. En gros, la parole s'épanouit, donc on se sent bien. Alors, Aude Vidal, elle ironise un peu, c'est certes mieux que de s'entourer de malveillance. Rien à dire là-dessus. Mais elle nous alerte aussi sur le fait qu'une bienveillance devenue une fin en soi rencontre le projet néolibéral. Vous savez, la culture de l'apaisement, une société pacifiée, avec par exemple un règlement des conflits qui ne se ferait que dans l'arène électorale. Ou alors un contrôle social présenté comme sécurité, ou même comme sérénité. On le voit, le libéralisme aime bien manier cette question de l'apaisement et donc de la bienveillance. Alors c'est dangereux de l'utiliser ce concept, cette bienveillance qui n'a pour but qu'elle-même, est aussi stérile, nous dit Aude Vidal, qu'un féminisme qui a vocation à permettre à des femmes de se construire des destins singuliers appréciables. Parce qu'alors du coup, il n'y a plus du tout la notion d'émancipation collective. Et cela nous fait oublier le véritable objectif du féminisme, qui est de combattre les inégalités hommes-femmes, quand même, et non de se construire des bulles de confort dans un monde qui va mal ou qui fait mal. Alors j'ajouterais même pour ma part que la bienveillance est une sorte de cache-sexe hein, qui ne sert qu'à mettre sous le tapis les désaccords les plus criants et qui finit, est-il utilisé à outrance pour empêcher toute discussion de fond. Ça, c'était la première, première notion que Aude Vidal démonte un petit peu dans ce bouquin. Et on va passer à la deuxième après une petite virgule. Alors, le deuxième concept que l'auteur prend à bras le corps, c'est celui du consentement. Alors, bien sûr, elle rappelle d'abord la nécessité du consentement, la nécessité aussi de prendre cette notion au sérieux, d'éduquer chacun d'entre nous à la capacité de dire non. Sauf qu'elle se demande si c'est vraiment le meilleur angle d'attaque pour lutter contre les violences sexistes. Parce que, pour elle, il y a plusieurs problèmes dans la question du consentement. D'abord, c'est une approche contractuelle des relations. Or, on le sait, dans la doctrine libérale, le contrat est supérieur à la loi. Les protections collectives n'ont aucune légitimité au regard de ce sur quoi deux personnes peuvent se mettre d'accord. Alors, on connaît le biais de cette manière de considérer les relations humaines. Sans souci pour les effets de captivité, de contrainte, de domination qui s'exercent sur les personnes les plus fragiles du contrat. Alors, où place-t-on la ligne entre acceptation, résignation, on pourrait dire, et consentement réel? Pas simple, hein, comme question. Il y a un auteur que Aude Vidal cite pas mal dans son bouquin, qui s'appelle Nicole Claude Mathieu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Anatomie politique ». Et elle dit « Le mot de consentement appliqué au dominé annule quasiment toute responsabilité de la part de l'oppresseur. Puisque l'opprimé consent, il n'y a rien de véritablement immoral dans le comportement du dominant. L'affaire est en quelque sorte ramenée à un contrat politique classique. » Ça, c'est le premier problème avec le consentement. Et le second, c'est en fait que ça entraîne, cette notion de consentement, un examen continu des subjectivités. Alors, ça part d'un souci bienvenu pour, on va dire, la fine mécanique des sentiments et des émotions, qui, bien sûr, on le sait, ont été trop longtemps oubliées dans le registre politique. Mais, de fait, en actionnant ce levier-là, ce féminisme surinvestit la sphère individuelle, la subjectivité, l'individu, quoi, et répugne à poser des règles de vie communes. Vous savez, c'est les fameuses phrases « oui, mais c'est mon ressenti »,« oui, mais là, tu m'as blessé », enfin, toutes ces phrases-là qu'on peut comprendre, hein, encore une fois, hein, c'est parce qu'on est passé un peu d'un extrême à l'autre, mais là, voilà. Et Aude Vidal nous dit que c'est l'une des multiples manières par laquelle la cause féministe s'individualise avec l'usage, souvent irréfléchi, même inconscient, en fait, d'un corpus d'idées et de pratiques libérales. Petite virgule. « Alors après, Aude Vidal nous prend notre petite idée là du féminisme actuel, qu'elle nomme un genre à soi. Alors, elle rappelle d'abord, bien sûr, que la notion même de sexe biologique peut comporter certaines ambiguïtés. Il n'est pas toujours aussi simple que cela à définir. Elle rappelle aussi qu'aucune de ces notions biologiques ne doivent s'imposer pour définir la notion de genre. On voit bien que c'est une chose différente, le genre étant une construction sociale. Elle rappelle aussi que les troubles dans le genre, comme on dit, sont une réalité de tout temps. Mais après, elle s'interroge sur ce que nous faisons de cela aujourd'hui. Elle nous dit aujourd'hui, le trouble dans le genre est de plus en plus visible. L'expérience de personnes intersexes, transsexuelles ou transgenres enrichit les luttes féministes en dévoilant l'artificialité des assignations de genre. Mais finalement, cette évolution pousse certains, dans les milieux les plus radicaux, à considérer que la catégorie « femme » est bien étriquée et qu'abolir le genre passe par la remise en cause des identités genrées au niveau individuel. En gros, ce serait que, de même qu'on sauve la planète du désastre écologique en fermant le robinet lorsqu'on se brosse les dents, adopter une identité non binaire ou trans, ce serait refuser l'assignation à des rôles sociaux stéréotypés et donc les détruire, espère-t-on. Ce serait une posture, quoi, finalement. Aude Vidal, elle nous dit que vouloir pratiquer une non-binarité sur toute forme de déviation par rapport à la norme de féminité hétérosexuelle revient à réenfermer les femmes dans leur rôle convenu. En fait, la femme, ce serait la norme, donc la norme bien femme. Et le reste, ce serait une non-binarité. Alors qu'on pourrait simplement dire que ce sont des femmes qui sont moins dans la norme. Voilà. Puisque dans une telle idéologie, chaque personne est unique dans son ressenti de genre, cela revient à évacuer la question des vécus communs. Et donc à briser toute tentative de solidarité entre femmes. C'est la règle même du libéralisme, hein, la morcellisation à l'extrême. Le succès grandissant des identités non binaires morcelle la classe des femmes. Quelle solidarité bâtir si les luttes féministes, anciennement consacrées à la lutte contre l'oppression des femmes, qu'elles soient de couleur, blanche, hétéro, lesbienne, etc., se réduisent au cheminement d'individus singuliers travaillant sur soi à la recherche d'une identité qui leur convienne. Elle parle d'ailleurs à ce propos, elle revient aussi sur la notion d'intersectionnalité. Mais une intersectionnalité poussée à l'extrême, ça devient un morcellement. Elle nous dit que le genre, c'est un produit du patriarcat, on le sait, que les notions entourant la masculinité et la féminité sont là pour naturaliser la domination masculine et la subordination féminine. Mais elles ne sont pas là pour être des identités inventées par chacun en donnant lieu à des genres pluriels. Avec l'autodéfinition de genre, il ne s'agit plus de construire ensemble des représentations partagées par la société, mais d'effectuer un travail sur soi très individualisé. On revient encore à la subjectivité. Et il faut rappeler ici à quel point un tel projet, basé sur le travail ou le développement personnel, est tout à fait en adéquation avec notre société libérale et l'injonction qui est faite à chacun de choisir sa vie. Et oui, donc là, en effet, elle démonte encore autre chose, je viens d'en parler, c'est-à-dire l'intersectionnalité, sous un chapitre qu'elle appelle intersectionnalité ou fragmentation ad nauseum. L'intersectionnalité, c'est le fait de considérer que différents types de discrimination s'ajoutent les uns aux autres, voilà. Et fait que certains sont plus discriminés que d'autres. Bon, on voit bien ce que c'est. Cette idée, elle s'est développée aussi dans les milieux féministes, et elle a montré sa pertinence. Et elle reste très intéressante à activer. Cependant, si on la porte à hauteur d'individu, l'intersectionnalité la tentative de prendre en compte ces différentes dimensions laisse libre cours soit à la relativisation, tout est égal à tout, soit à la compétition entre les causes. La lutte contre un système qui justifie l'exploitation des femmes par les hommes, des pauvres par les riches, des blancs par les noirs, finit par ressembler à une foire d'empoigne, à un jeu malsain de bataille des oppressions, qui en effet, de l'homme cis hétéro handicapé ou de la bourgeoise lesbienne valide, opprime le plus l'autre. Et finalement, des lignes de fracture pourtant évidentes ont fini par tisser un monde confus dans lequel tout le monde est à la fois oppresseur et opprimé. En accordant plus d'intérêt à la tension entre la norme et sa subversion qu'aux inégalités entre femmes et hommes, en tant que classe, la culture queer ringardise ce féminisme dont les femmes ont pourtant toujours un besoin criant. Alors, il ne s'agit bien sûr pas d'affirmer ici que les luttes féministes ont toujours bien relayé les revendications des lesbiennes, des femmes noires, trans ou issues des classes populaires. Ce n'est pas le cas. Mais même si l'intersectionnalité est un objectif louable, il devient problématique quand il justifie une hiérarchie des oppressions, objet d'une incessante concurrence. Je vais citer ici Aude Vidal. Même si les relations interpersonnelles sont sous influence de rapports de domination qui dépassent les individus, il est désespérant de voir l'activité de groupes militants accorder une si grande place à l'examen des subjectivités en prétendant que leur frottement est une affaire politique. C'est peut-être une manière de délaisser la sphère publique. Si souvent, il faut bien le dire, décourageante. Alors, elle continue son petit travail de décortication, je ne sais pas comment ça se dit, j'en sais rien, on peut l'inventer aussi. Et elle parle d'une autre dérive, c'est celle qu'on connaît sous l'expression « les personnes les premières concernées ». Vous savez, c'est « ah oui, mais toi tu ne peux pas parler parce que tu n'es pas concerné ». Alors cet appel aux personnes les premières concernées est omniprésent dans le nouveau féminisme radical. Et en effet, encore une fois, on ne peut nier que l'apport des personnes concernées au premier chef par une domination, une oppression, une violence, est précieux. Leur connaissance du sujet est souvent plus riche que celle du premier venu. Rien à dire là-dessus. L'endroit d'où elles appréhendent le monde rend leur expérience d'autant plus intéressante qu'elle est souvent en décalage avec des approches dominantes. Mais là aussi, on constate une dérive qui consiste non plus à respecter un point de vue, celle des personnes premièrement concernées, mais à imposer une pensée unique, produite à partir de points de vue particuliers. Or, la définition de ce qui est concerné et qui ne l'est pas est un acte de pouvoir. Comment délibérer collectivement, prendre des décisions communes, si certains sont exclus du débat, sous prétexte qu'ils ne sont pas concernés en premier chef ? Sous prétexte qu'ils n'ont pas vécu une expérience donnée. Par définition, dans une société, chacun vit des expériences diverses. Il est important de donner la parole, d'entendre réellement les personnes concernées. Mais il est aussi important de débattre collectivement. Donner la parole à des personnes non directement concernées, mais n'est-on pas tous concernés par ce qui se passe dans la société ? Est aussi un moyen de ne pas entrer à tort et à travers dans la subjectivité individuelle, encore une fois. Et alors, elle va conclure son ouvrage de Vidal avec une petite phrase, un chapitre qui s'appelle « Et l'universel dans tout ça ?» Alors, sous prétexte de lutter contre un universalisme de dominant masculin, blanc et bourgeois, qui s'est assuré le droit de tout arbitrer sous couvert de sa neutralité. Eh bien, on est tenté de multiplier les lignes de fracture, quitte à s'interdire a priori tout dialogue. Du régime de vérité postmoderne à la sclérose des identités, les nouvelles féministes radicales semblent parfois désespérées d'une humanité partagée. Chacun voit midi à sa porte et peut clore une discussion sur l'injonction au respect d'une expérience singulière. Certes, il y a beaucoup à critiquer dans l'héritage universaliste des Lumières, et il est nécessaire de le faire. Mais le rejet de cet héritage ne nous fait-il pas tomber dans la crispation identitaire ? Et avec Aude Vidal, je pense qu'une fois mis à jour les conflits d'intérêts, une fois accordée la reconnaissance nécessaire à l'expérience et à la réflexion des personnes premièrement concernées, il doit être possible de parler politique et de s'engueuler. Non pas parce qu'on a telle ou telle caractéristique sociale, mais simplement parce que nous exerçons chacun notre entendement avec ce que nous sommes. De s'engueuler et aussi de se mettre d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire d'aujourd'hui de ce petit ouvrage. Alors il est petit, hein, il est même pas 100 pages, il est assez dense. Je vous en rappelle les références. Donc ça s'appelle « La conjuration des égaux, féminisme et individualisme ». Ça a été écrit par Aude Vidal, qu'on a reçu au mois d'octobre, novembre cette année, à l'Encrier, là, à Florac. C'est paru aux éditions Sileps. Il est bien sûr en prêt à la bibliothèque de l'Encrier. Et puis, si ça vous intéresse, je vous propose de poursuivre cette discussion ce dimanche 19 mars à 18h. Où on va travailler autour d'un arpentage sous ce livre, c'est-à-dire une lecture collective, pour essayer d'aller un petit peu plus loin et d'aller un peu plus dans les détails. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture, mais peut-être à dimanche, et puis sinon, à bientôt, au mois prochain.